Europe Midi, Romain Desarbres.
Midi et demi, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Du nouveau dans l'enquête sur l'affaire Jubilard. Des fouilles ont lieu en ce moment même. On ira sur place retrouver Benjamin Peter. Le pass vaccinal voté définitivement. On va vous expliquer comment ça va se passer et comment va se passer le passage du pass sanitaire au pass vaccinal. Préparez-vous à une nouvelle grève des profs jeudi. Les syndicats dénoncent, je cite, le chaos qui régnerait, selon eux, dans les écoles, les collèges et les lycées à cause de la crise sanitaire. Une professeure de collège de Trappes accusée à tort de racisme par le père d'une élève est obligé de quitter l'établissement. Et oui, le récit de Gladys Laffitte. Et puis la tendance météo avec vous Anissa Haddadi. Et une journée plus agréable au sud qu'au nord. Hein.
Oui, c'est vrai que des Pyrénées jusqu'aux Alpes, on a une journée plutôt agréable avec un soleil radieux dans un ciel dégagé. Mais attention, on a du vent au bord de la Méditerranée. Sur les deux tiers nord du pays, en revanche, là, on a un ciel qui ne se dégage pas. Hein. Les nuages restent bien présents toute la journée. Et les températures, elles, sont légèrement en dessous des moyennes de saison.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
L'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard. Depuis ce matin, les gendarmes fouillent les alentours d'une ferme à Cagnac-les-Mines, près de la maison des Jubilard. On part tout de suite sur place retrouver Benjamin Peter. Bonjour Benjamin.
Bonjour Romain.
Cette ferme n'a évidemment pas été choisie au hasard. Expliquez-nous.
Non, en effet, c'est une ferme qui se situe, vous le disiez, à moins de 2 km du domicile familial, au lieu dit Drignac. C'est un petit hameau de 4-5 maisons habitées et dont un hangar avait été ravagé par un incendie en avril dernier. Il a depuis été reconstruit. C'est une ferme d'une quinzaine d'hectares qui avait déjà été fouillée plusieurs fois par les enquêteurs. Mais si les magistrats ont demandé de nouvelles fouilles, c'est parce qu'un ancien co-détenu de Cédric Jubilard la désigne comme le lieu où serait caché le corps de Delphine. C'est ce qu'il affirme. En tout cas, Cédric lui aurait révélé qu'il avait enterré le corps de sa femme dans un endroit qui a déjà brûlé et que sa nouvelle compagne, Séverine, était au courant, ce qu'elle a en tout cas nié en garde à vue. Un témoignage que les enquêteurs prennent avec beaucoup de précautions, mais qu'ils prennent soin tout de même de vérifier. Alors mercredi déjà, un hélicoptère avait repéré les lieux et depuis ce matin, des gendarmes assistés de techniciens de l'IRCGN, les experts de la gendarmerie qui avaient déjà sondé le domicile du couple il y a un an, sont sur place depuis 8h ce matin. Des militaires de la fosse, l'unité fouille opérationnelle spécialisée du 17e RGP de Montauban ont également été mobilisés. Des recherches qui pourraient durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En tout cas, l'arrêté municipal qui bloque depuis 9h l'accès à la ferme a été pris pour un mois.
Benjamin Peter en direct de Cagnac-les-Mines. Merci Benjamin, 12h33.
Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.
Le pass vaccinal va entrer en vigueur avant la fin de la semaine. Il va falloir attendre la réponse du Conseil constitutionnel qui a été saisi par des députés de gauche. Réponse attendue normalement jeudi. Louise Salé avec nous. Bonjour Louise.
Bonjour Romain.
Ce pass vaccinal, que va-t-il changer dans nos vies de tous les jours? Expliquez-nous.
Alors tout d'abord, il ne concerne que les plus de 16 ans et il fonctionne exactement comme le pass sanitaire. A priori, le passage au format pass vaccinal sur l'application Tous Anti-Covid devrait être automatique. Et à l'entrée de chaque établissement recevant du public, donc, vous devez prouver que vous avez un schéma vaccinal complet ou bien que vous possédez un certificat de rétablissement au Covid-19 de moins de 6 mois. Mais montrer un simple résultat de test négatif ne suffit plus. Le pass vaccinal est obligatoire comme le pass sanitaire pour rentrer dans les bars et les restaurants, les salles de sport et de spectacle, les salons et les transports interrégionaux comme le train ou l'avion. Des contrôles d'identité peuvent être effectués pour vérifier que vous ne présentez pas de faux pass vaccinal. Il faut alors montrer un document officiel avec votre photographie comme la carte d'identité ou la carte vitale. Mais attention, ces contrôles ne sont pas obligatoires et les restaurateurs ont déjà indiqué ne pas vouloir les appliquer. Enfin, pour les hôpitaux ou les cabinets de médecins, le pass sanitaire reste suffisant.
Louise Salé, merci Louise. On est en direct avec le docteur Benjamin Davido, qui est infectiologue, directeur médical référent Covid-19 à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Bonjour docteur.
Bonjour à tous les auditeurs.
Alors que la vague se tasse, la vague Omicron est en train de se tasser, c'est ce que l'on voit. Est-ce que ça va servir à quelque chose d'instaurer un pass vaccinal qui correspond à un serrage de vis?
Écoutez, je pense que le pass vaccinal, c'est pas que pour les primo-injections, c'est aussi pour les rappels et notamment pour faire en sorte que les gens qui ont besoin de leur troisième dose puissent l'avoir. On voit malheureusement encore des patients qui ont le variant Delta et qui se retrouvent hospitalisés, qui sont des gens qui sont à plus de 6 mois de la deuxième dose et n'ont pas fait le rappel et la vaccination protégeant. Je pense que c'est une bonne chose. Il est évident que si on avait pu le mettre en place avant, ça aurait eu un fort bénéfice et un fort impact parce que ça n'échappera à personne qu'avec Omicron, malgré 3 doses, on peut tout de même se contaminer. Mais encore une fois, l'enjeu, c'est d'éviter les formes graves.
Le président de Pfizer parle dans le Figaro de ce matin et il nous décrit un retour prochain à la vie normale, mais une vie normale avec des tests, des vaccins et des médicaments. Est-ce que c'est ce à quoi il faut s'attendre, selon vous ?
Oui, je crois qu'on a beaucoup d'éléments pour, au bout de 2 ans de la pandémie, penser que ce virus va se saisonnaliser, depuis le temps qu'on l'évoque. Et notamment, pourquoi ? Parce que la vague Omicron s'embête une vague extrêmement contaminante qui pourrait donner les conditions d'une immunité collective, notamment sur une population peu ou pas vulnérable qui, dans l'absolu, ne devra pas être, si je puis dire, soumise à une vaccination dans sa globalité d'ici la fin de l'année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut imaginer que d'ici l'automne prochain, il faudra se préparer à des vagues chaque saison, comme la grippe, ouais, où on protégera les 15 à 20 millions de Français les plus fragiles. Et donc, ça veut dire qu'on utilisera ces techniques de tests, probablement plus ciblées, notamment sur les personnes à risque, notamment à l'hôpital, comme on gère d'autres maladies en infectiologie, notamment sur le plan respiratoire.
Vaccins chaque année, notamment pour les plus fragiles. Je voulais qu'on parle du Paxlovid, le Paxlovid qui va arriver fin janvier dans nos pharmacies. C'est ce que dit également le patron de Pfizer. Ce Paxlovid sera prescrit aux personnes positives au Covid et à risque. Qu'est-ce que ça va changer ?
Alors vous avez raison, c'est une vraie question parce qu'en réalité, aujourd'hui, la meilleure façon d'éviter de faire une forme grave, encore une fois, c'est de se protéger par la vaccination. Et on a des données vraie vie au-delà des données de science et des données de laboratoire. Sur le Paxlovid, une des questions sur laquelle on peut s'interroger, d'abord, c'est est-ce que ça diminue la contagiosité ? Est-ce qu'aujourd'hui, le vaccin n'est pas en mesure de faire ? Le problème, c'est quoi ? C'est qu'on est face à une épidémie, notamment Omicron, où on nous dit qu'il y a 300 000 cas par jour quotidiennement. On sait qu'il y en a plutôt 1 million et qu'il y a au moins 50% d'asymptomatiques et que quand vous êtes asymptomatique, de fait, vous ne pouvez être éligible à aucun traitement puisque vous n'avez pas de symptômes et qu'il faut administrer très tôt ces médicaments. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas, à mon sens, de fontaine de jouvence face à cette maladie, comme le Tamiflu, le Celtamivir, médicament de la grippe, n'est pas une fontaine de jouvence et que ça sera un élément supplémentaire pour aider les médecins, pour ceux qui n'ont pas répondu à la vaccination et qui sont immunodéprimés.
Merci beaucoup, docteur Davidot. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. On va parler de cette grève qui se profile dans les écoles. Préparez-vous si vous avez des enfants. Nouvelle mobilisation qui peut se traduire en grève des profs jeudi prochain dans les écoles, les collèges ou encore les lycées. Les syndicats disent qu'ils demandent des réponses fortes face au chaos engendré par la crise sanitaire. Quelles sont leurs revendications ? Écoutez ce que nous a dit Guylaine David, qui est porte-parole du syndicat SNUIP FSU.
Ce qui est annoncé pour jeudi prochain, c'est un appel à des mobilisations partout en France et qui, dans certains départements, pourrait se traduire par un appel à la grève. On demande maintenant des actes suite aux annonces qui ont été faites jeudi. Nous demandions la mise en place d'un collectif budgétaire pour pouvoir acter de nouveaux postes dans l'éducation nationale. Donc cette demande, elle est toujours dans nos demandes. On a toujours des classes qui fonctionnent avec des effectifs très limités, donc on n'avance pas sur nos programmes. Donc il y a vraiment aussi des questions pédagogiques. Comment on fait pour mettre en place rapidement quelque chose qui va permettre aux élèves de progresser.
Voilà Guylaine David qui répondait aux questions de Louise Salé. Valérie Pécresse était l'invitée exceptionnelle ce matin d'Europe 1. Elle était ce week-end en Grèce pour appeler à la défense des frontières de l'Europe. Elle fait une campagne de droite. Faut dire, elle est la candidate des Républicains. Alexandre Chauveau, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui suivez Valérie Pécresse pour Europe 1. Elle cherche, vous nous dites, à s'imposer entre d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre Éric Zemmour et Marine Le Pen.
Oui, d'un côté, convaincre les électeurs de centre-droit déçus du macronisme. De l'autre, parler identité, sécurité et immigration pour parler à la droite de la droite. C'est ce qu'elle a fait en Grèce ce week-end, même si Valérie Pécresse veut apparaître à la fois enracinée et tournée vers l'avenir, contrairement à Éric Zemmour, dit-elle. Écoutez, c'était ce matin sur notre antenne.
Éric Zemmour est nostalgique d'une France du passé qui n'est plus. C'est la France en noir et blanc, c'est la France de l'ORTF, il va chez les agriculteurs, il nous parle du béret, des sabots, vous voyez. Moi, je ne crois pas ça.
Alors, son autre adversaire, c'est donc Emmanuel Macron, avec qui elle tente d'installer un duel. L'objectif, tout faire pour se détacher de l'étiquette Macron compatible que ses adversaires tentent de lui coller.
On a un président totalement zigzag, sans vérité en réalité. Un jour, il soutient les forces de l'ordre, le lendemain, il les accuse de violence policière. Vous voyez, donc, moi je suis de droite, j'ai toujours été de droite, une droite assumée, une droite ouverte, sociale et une droite forte.
Le but de cette stratégie, c'est évidemment d'accéder au second tour, une étape clé pour l'équipe de la candidate, convaincue que Valérie Pécresse l'emporterait en finale face à Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Alexandre Chauveau. Il est 12h40, restez bien avec nous sur Europe 1 dans un instant. On va parler de cette histoire. Ça s'est passé dans les Yvelines. À Trappes, une professeure a été victime d'une véritable fatwa numérique. Elle a été accusée à tort de racisme. Elle a dû quitter son collège. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Cette affaire dont je voulais vous parler dans Europe Midi, une professeure de SVT d'un collège de Trappes dans les Yvelines a dû être, il n'y a pas d'autre mot, exfiltrée après qu'un père d'élève l'a accusée à tort de racisme. C'est révélé ce matin par Le Parisien. Gladys Laffitte avec nous. Bonjour Gladys.
Bonjour.
Cette affaire rappelle tristement l'affaire Samuel Paty. D'ailleurs, tout a commencé 4 mois seulement après l'assassinat par décapitation du professeur d'histoire géo.
Oui, lors d'un cours sur l'évolution à des élèves de 3e, la professeur de SVT présente une chronologie à ses élèves sur laquelle figure le rappeur Soprano et un peu plus loin un singe, ce qui suffit au père d'une élève pour l'accuser de racisme dans un message sur les réseaux sociaux qui devient viral où il ne relaie qu'une partie du cours. Il demande des explications au chef d'établissement, une rencontre a lieu avec la professeure et il finit par retirer sa publication. Sauf que le mal est déjà fait, la jeune femme de 34 ans a peur, elle dépose une main courante puis une plainte. Elle dit utiliser la photo de Soprano depuis 2015, après que des élèves se soient plaints de ne voir que des photos de blancs dans les manuels scolaires. Y figurent aussi Josiane Balasco ou encore Kylian Mbappé pour rendre ses cours plus intéressants. Des cours validés par l'inspection académique. Elle a depuis changé d'académie. Le père de l'élève a lui été condamné en novembre pour cette fatwa numérique, comme le dit le procureur, à 6 mois de prison. Il a fait appel. Il était déjà connu de la justice et de l'établissement pour contester régulièrement les notes données à sa fille.
Gladys Laffitte, merci. Gladys, on est en direct avec Fatia Agag Boudjalat. Bonjour. Vous êtes,
bonjour.
Bonjour, vous êtes professeur et essayiste. On a le sentiment que rien n'a changé depuis Samuel Paty, que des parents peuvent encore inquiéter comme ça des professeurs.
Ah mais tout à fait, et s'il n'y a pas le rapport de force médiatique, s'il n'y a pas d'écho dans la presse, l'institution est défaillante et n'est jamais en soutien des enseignants. Il y a toujours cette présomption de culpabilité dont souffrent les profs et ses parents qui sont considérés comme des clients, et le client est roi. Là, par exemple, comment ce principal a-t-il pu recevoir ce parent véhément et le confronter à une enseignante à qui le principal a refusé d'être accompagné? Voilà. Donc on est toujours dans cette situation du pas de vague et de cette présomption de culpabilité pour les profs.
Il faudrait arrêter de recevoir ces parents violents et leur dire écoutez merci mais c'est notre parti, on est professeur, on n'a pas à vous recevoir, on n'a pas à se justifier, c'est ça?
Alors il faudrait cesser de mettre sur le même plan les enseignants, qui sont la force vive quand même de l'éducation nationale, oui. Et ses parents. C'est-à-dire que la parole de l'enfant, la parole du parent, la parole du fonctionnaire d'État se valent complètement et il faut toujours que le prof donne des gages. Ce qu'il faudrait dire à ses parents, et c'est pareil pour Samuel Paty, David Di Nota a eu raison de mettre en cause l'institution qui a vraiment failli. Ce qui est toujours gênant, c'est de voir l'éducation nationale préférer la paix sociale et donner quitus aux parents les plus véhéments. Si vous êtes un parent correct, l'éducation nationale n'hésitera pas à sanctionner votre enfant. Si vous êtes extrêmement véhément, extrêmement revendicatif, alors là, le chef d'établissement sera dans l'obséquiosité et même une certaine lâcheté. Le principal aurait pu tout bloquer. Il reçoit le père, il dit c'est très simple, vous prenez votre fille, vous changez d'établissement, vous allez dans le privé. Le principal ne s'est pas constitué partie civile, l'éducation nationale ne s'est pas constituée partie civile. Et le procureur faisait remarquer dans l'article du Parisien qu'il n'y a eu aucun représentant de l'éducation nationale au procès. Ouais. Résultat, c'est comme avec les enfants harceleurs, c'est la victime qui doit changer d'établissement, changer de vie, s'éloigner pour sa protection. C'est ça qui est incroyable. Et ce père, la justice a été à la hauteur, contrairement à l'éducation nationale, mais moi je m'interroge sur sa fille. S'il n'est pas satisfait par le service public et par les lois que nous appliquons, parce qu'encore une fois c'est une question
de programme. Oui, il peut changer d'école et aller dans le privé comme vous l'avez écrit sur Twitter.
Et ce père était aussi gêné par en fait le cours même, celui de l'évolution. Parce que voilà, il faut le dire, ce genre de problèmes sont posés par des religieux. Ça peut être des cathos, mais les cathos vont dans les établissements privés catholiques en général. Mais c'est surtout chez les parents musulmans.
Et là, c'est le problème de fond, c'est la base. Merci beaucoup, Fatia Agag-Boudjalat. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. On change désormais totalement de sujet. On parle économie. Plus de 4 milliards d'euros d'investissements étrangers en France. Ça touche de multiples projets qui vont du recyclage de plastique à la santé en passant par la chimie. Ça a été annoncé aujourd'hui à l'occasion de Choose France. Vous savez, ça a été créé par Emmanuel Macron pour attirer les projets et donc les emplois en France. Déjà, Carole Ferry, dites-nous, à quoi correspondent ces 4 milliards d'euros ?
Eh bien, ce sont 4 milliards d'euros répartis dans 21 projets au total, qui représentent plus de 10 000 emplois. Parmi les plus importants, vous en avez deux dans le recyclage du plastique. Il y a celui du groupe américain Eastman qui va injecter 850 millions d'euros dans une usine de recyclage des polyesters difficiles à recycler, qu'on trouve notamment dans les emballages ménagers ou les déchets textiles. L'ouverture est prévue en 2025 avec 350 emplois à la clé. Le site n'a pas encore été choisi. Toujours dans le même secteur, vous avez également le Canadien Loop Industries qui va lancer une usine de recyclage d'autres types de plastique en collaboration avec le groupe français Suez. L'allemand BASF, premier groupe de chimie au monde, va pour sa part construire une nouvelle usine spécialisée dans la production de nylon à Chalampé, dans le Haut-Rhin. Vous avez aussi le géant américain Pfizer qui a annoncé un projet de production de traitement contre le Covid en France. Le géant suédois Ikea qui prévoit d'investir 650 millions d'euros dans l'économie circulaire et les transports durables. Vous voyez, tous les secteurs sont concernés. Autant de projets d'investissement étrangers en France qu'Emmanuel Macron compte bien valoriser à 100 jours de la présidentielle.
Merci beaucoup Carole. On est en direct avec Marc Lhermitte qui est associé chez EY. Bonjour Marc Lhermitte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez travaillé sur notre attractivité, l'attractivité de la France. Quels sont, simplement, j'allais dire, nos points forts et nos points faibles en France ?
Premier point fort de la France, c'est que c'est une économie qui compte, non seulement en Europe, mais dans le monde. Deuxième économie européenne, avec un certain nombre de secteurs sur lesquels la France est leader. Ce qui est reconnu aussi, c'est les compétences en France, la variété, la quantité des compétences un peu partout sur beaucoup de bassins d'emploi, pas seulement en Île-de-France. Une façon un peu nouvelle de présenter ses projets, de présenter sa transformation économique, de dire qu'elle s'adapte à la transformation de l'économie internationale. Donc, autrement dit, est un peu plus à l'aise avec la mondialisation, avec façon de travailler sur la technologie. On l'a dit, Carole Ferry vient de le dire, avec des investissements. C'est ce qui m'a marqué. Très fort dans les industries vertes, le recyclage, et c'est important de dire ça en ce moment.
Ça, ce sont les points forts. Nos points faibles ?
Alors, on reste un pays parfois un peu compliqué à lire, avec une habitude des conflits sociaux un peu durs. Ça a été le cas ces 3-4 dernières années compris, mais dans le passé, il y a des choses qui ont vraiment pesé, qui préoccupent pas mal les entreprises. La pression fiscale générale sur les entreprises, on a fait beaucoup de chemin, notamment dans les 4-5 dernières années, sur le coût du travail, sur l'impôt sur les sociétés, les impôts de production. Il y a un énorme progrès, mais on reste presque à mi-chemin, donc il faut continuer cet effort pour que la France soit pas non plus un pays à bas coût, mais qu'elle soit dans la moyenne européenne, c'est important. Et puis, il faut rassurer sur la façon de financer tout cela, que le déficit, la dette soit maîtrisée dans les années à venir pour pouvoir investir dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans les services publics. Ça, ce sont des éléments qui sont sur le radar aussi des chefs d'entreprise qui investissent aujourd'hui, qui pourraient investir encore plus demain.
Merci beaucoup Marc Lhermitte, associé chez EY. Merci de nous avoir dressé ce tableau de la France. Point fort, point faible, extrêmement clair. 12h51, restez bien avec nous. Djokovic a atterri à Belgrade et on est en direct de l'aéroport. À tout de suite.
Europe Midi.
Romain Desarbres.
Il est 12h53, Novak Djokovic est rentré chez lui à Belgrade. Il a atterri il y a quelques instants. Il est passé cette nuit par l'aéroport de Dubaï où il a pu faire des selfies. Carole Baudry, vous êtes en direct de l'aéroport de... Caroline Baudry, en direct de l'aéroport de Belgrade. Il y a du monde, il y a des fans pour l'accueillir.
Et oui, l'avion s'est posé il y a 30 minutes exactement. L'avion dans lequel se trouve la star serbe s'est posé sur le tarmac de l'aéroport, accueilli ici par une foule de journalistes, des centaines de Serbie, de l'étranger, massés sous le soleil contre les grilles de l'arrivée VIP pour tenter d'apercevoir le héros national. Des fans également, vous le disiez, ont fait le déplacement. Ils agitent des drapeaux, chantent à la gloire de Djoko. Zlatan, par exemple, tenait à être là à midi.
Pour voir Novak Djokovic, lui dire bonjour et bienvenue à Belgrade. Novak est notre idole. Je pense que c'est une énorme erreur du gouvernement australien de l'avoir expulsé. C'est une décision politique. Et d'ailleurs, c'est son choix de ne pas se faire vacciner. Si je pouvais lui parler, je lui dirais continue et gagne tous les tournois auxquels tu participes.
Contacté, le père de Novak Djokovic n'a pas voulu donner plus d'informations sur le programme de son fils ici à Belgrade, qui a priori ne devrait pas faire de déclaration le temps de la durée du tournoi de l'Open d'Australie.
Caroline Baudry, merci beaucoup Caroline. La France de son côté a ce matin adressé un message très clair à Djokovic et à tous les athlètes, notamment étrangers, qui ne veulent pas se faire vacciner. Ils ne pourront pas venir en France pour participer à des compétitions. Le gouvernement a appelé l'agence France Presse pour faire passer ce message. Axel May avec nous. Bonjour Axel.
Bonjour.
Dès hier soir, la ministre des Sports avait donné le la.
Oui, sur son compte Twitter, la ministre des Sports avait écrit que le pass vaccinal s'appliquerait dans les stades, y compris aux joueurs professionnels. Roxana Maracineanu avait pourtant laissé entendre au début de l'affaire Djokovic qu'un protocole sanitaire strict lui permettrait de participer à Roland-Garros sans être vacciné. Mais l'adoption définitive du pass vaccinal hier a fait évoluer la communication gouvernementale. Désormais, c'est tout sportif, étranger ou pas, qui dispute une compétition dans l'Hexagone devra être vacciné. Alors, même si d'ici Roland-Garros, fin mai, la règle aura peut-être été adoucie, d'autres compétitions ne devraient pas échapper au pass vaccinal. Et l'on pense au tournoi Destination qui débute dans 3 semaines avec France-Italie. Ça doit cogiter ferme aussi chez Didier Deschamps. À la télévision, la semaine dernière, le sélectionneur des Bleus avait déclaré « Tous les footballeurs ne sont pas vaccinés ou pas totalement ».
Axel May, merci beaucoup. Merci Axel. La météo, il est 12h56. Anissa Haddadi, beaucoup de nuages sur la majorité du pays aujourd'hui.
Oui, sur les 2/3 nord du pays, en particulier romain. Alors sur les pays de la Loire, le centre, la région parisienne, le Grand Est, la Bretagne et même jusqu'en Nouvelle-Aquitaine et en région lyonnaise, on a un ciel qui va rester gris cet après-midi, avec même des brouillards, les brouillards de ce matin qui ont vraiment du mal à se dissiper, mais sans averse. La bonne nouvelle, c'est du côté des côtes de la Manche, où là, on a le retour de belles éclaircies cet après-midi. Et puis plus au sud, entre les Pyrénées et les Alpes du Nord, en passant par le pourtour méditerranéen, la Provence, la vallée du Rhône, eh bien là, on a un soleil radieux avec du vent Mistral et Tramontane qui souffle jusqu'à 80 km/h aujourd'hui. Alors les températures, je vous le disais à midi et demi, elles sont en dessous des moyennes de saison, avec 2 degrés cet après-midi à Saint-Étienne, 4 pour Toulouse et Belfort, 5 à Lyon et Chambéry, 8 degrés pour Paris, Rouen et Biarritz, 12 à Nîmes, 14 à Nice, Marseille et Ajaccio et 15 degrés la maximale pour Bastia ou encore Toulon.
Anissa Haddadi, merci Anissa. 12h57, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, c'est La France bouge et nous on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Très bon après-midi sur Europe 1.